La spécificité de cet accord, c'est qu'il regroupe une série de pays qui eh bien, sont à cheval sur plusieurs régions, plusieurs continents, à la fois l'Asie, à la fois les Amériques, avec les États-Unis au cœur, et puis également un certain nombre de pays d'Amérique latine. Donc c'est sa première spécificité. Ce sont des accords de libre-échange de nouvelle génération, parce que par ailleurs, il se déploie en dehors du cadre multilatéral de l'OMC, dans lequel les États-Unis considèrent qu'ils n'arrivent pas à pousser assez leur avantage à cause du caractère multilatéral des négociations. Et donc, ils ont eu cette idée d'introduire la possibilité d'une négociation, disons, méga-bilatérale avec un certain nombre de pays de la région. Alors, l'objectif, il est d'abord géostratégique hein, pour Washington. Le but premier de l'accord transpacifique, c'est d'endiguer autant que possible l'expansion commerciale et marchande de la Chine dans la région Asie-Pacifique, la région vers laquelle le centre de gravité de l'économie mondiale a basculé.
Derrière cela, est-ce qu'il n'y a pas des limites, à commencer par le champ qui est ouvert aux grandes entreprises finalement et un affaiblissement des autorités étatiques et gouvernementales?
Oui, tout à fait. C'est-à-dire que c'est un accord de libre-échange qui induit une baisse des barrières douanières entre tous les pays pour constituer un marché. Mais c'est aussi et surtout, je dirais, la nouveauté de cet accord, un accord qui impose une harmonisation des normes juridiques, des normes sanitaires, des normes fiscales, des normes environnementales aussi, tout ce qu'on appelle les normes non tarifaires, et qui sont des normes qui garantissent en quelque sorte des marchés équivalents pour l'expansion des multinationales de ces pays. Et évidemment, encore une fois, cet accord est d'abord conçu et taillé pour, eh bien, l'expansion et l'intérêt des principaux groupes mondiaux dont une bonne partie sont américains. Il s'agit évidemment de ça pour les entreprises multinationales qui en plus obtiennent un droit d'arbitrage privé, hein, qui est une des grandes questions de ces accords de libre-échange, qu'on trouve d'ailleurs pas spécifiquement dans le partenariat transpacifique, mais par exemple aussi dans le projet de traité transatlantique, qui est un peu le pendant de l'accord transpacifique pour la zone atlantique avec la négociation en cours entre les États-Unis et l'Europe. Hein. Ce sont les deux mêmes concepts en quelque sorte. Et en tout cas, en leur cœur, il y a évidemment la mise en place de ces tribunaux d'arbitrage privés qui permettent aux entreprises de saisir des tribunaux privés contre les États lorsqu'ils considèrent que la primauté de leur droit aux investissements est mise en cause par des régulations publiques ou tarifaires, etc. Donc, ce sont des accords qui assurent la primauté du droit des investisseurs sur les droits publics et les droits des États. Donc ça pose évidemment beaucoup de problèmes et ça réduit encore une fois la capacité de contrôle public et la capacité de régulation des États face aux multinationales et aux investisseurs privés.
Côté américain, c'est intéressant de noter que l'opinion publique est assez opposée à ce genre de traité. On sait que la campagne présidentielle bat son plein aux États-Unis, mais ces méga-traités, finalement, font peur à beaucoup de gens. On sait que le candidat démocrate Bernie Sanders a dénoncé un traité désastreux. Est-ce que vous pensez que la mise en place de ce traité, de ces traités, puisqu'on évoque évidemment le TAFTA, vous l'avez dit, va cristalliser les tensions?
Oui, tout à fait, c'est déjà le cas. Il y a une mobilisation très forte aux États-Unis, mais pas que aux États-Unis, d'ailleurs, dans nombre de pays concernés par ces négociations, dont il faut rappeler qu'elles ont lieu dans une certaine opacité. Hein. Seul Wikileaks a donné des éléments sur les négociations sur ces textes qui sont négociés à huis clos. Même les parlements de ces pays-là ne sont pas au courant. Monsieur Obama espère faire ratifier ce document par une procédure qui empêchera le Congrès de l'amender, hein, mais simplement de l'accepter, de l'approuver ou de le rejeter en bloc. Donc ça pose quand même beaucoup de problèmes. Et il y a effectivement une mobilisation très forte aux États-Unis des syndicats, des ONG, de nombre de personnalités qui s'inquiètent à juste titre des retombées de ce type d'accord qui finalement organise et érige le dumping social et fiscal eh bien, au cœur des rapports entre les États-Unis et ces pays. Et ça va évidemment créer tout un tas de problèmes parce que ça permettra évidemment d'accélérer des processus de destruction d'emplois dans certains secteurs de l'économie américaine où les entreprises trouveront dans d'autres pays des conditions en termes de coût du travail et de respect de certains droits salariaux à des conditions encore plus avantageuses que ce qu'elles ne sont aux États-Unis. Donc beaucoup de secteurs de la société américaine s'inquiètent des retombées en matière d'emploi et il en va de même pour les autres pays sur certains secteurs et qui craignent en particulier pour leurs agricultures, par exemple. L'accord va certainement déboucher sur eh bien, l'effondrement des agricultures locales au profit eh bien, des agricultures des grandes multinationales de l'agro comme Cargill aux États-Unis. L'affaire n'est pas jouée parce que désormais, il faudra qu'elle passe devant le Congrès américain. Il y a des élections cette année. Eh bien, de ce point de vue-là, on doit encore attendre, même si ça a été signé, ce n'est pas encore ratifié.
Comment vous expliquez, Christophe Ventura, le silence finalement de ces négociations? Vous avez évoqué aussi le TAFTA. On découvre finalement depuis assez peu de temps les risques qu'il peut y avoir derrière ces grands traités. On a le sentiment qu'ils ont été un peu préparés dans le dos des opinions publiques. Comment vous expliquez ce secret?
Précisément parce que les gouvernements savent que désormais, en particulier en période de crise économique aujourd'hui, avec des problèmes de chômage très importants, de précarisation massive des sociétés, en particulier aux États-Unis ou en Europe aujourd'hui, eh bien, les gouvernements savent que les populations sont hostiles, en quelque sorte, à l'augmentation et à la généralisation des processus ou des accords qui stimulent le dumping social, salarial, et qui tirent vers le bas, en quelque sorte, à la fois les salaires, à la fois les protections sociales et sanitaires, etc. Donc, évidemment, la stratégie mise en place par le gouvernement, c'est une stratégie de huis clos, hein, et ça pose d'énormes problèmes, parce qu'on voit bien aussi, de ce point de vue-là, que les gouvernements sont soumis à l'influence terrible des lobbies, des multinationales, etc., des industries qui, en réalité, sont à la manœuvre. Si on prend le cas, par exemple, des États-Unis par rapport à ces négociations, nos auditeurs seront peut-être surpris de savoir que la délégation qui négocie le Barça Transpacifique depuis quelques années est composée évidemment d'une délégation de l'administration Obama, mais également d'une délégation qui comporte 800 représentants d'entreprises multinationales américaines et de leurs avocats. Donc c'est eux qui négocient l'accord. Hein. Donc on est vraiment dans quelque chose qui se fait en dehors de la délibération commune et même de l'information démocratique minimale. Et c'est quelque chose que beaucoup dénoncent, je crois, avec raison.